La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Votre après-midi se poursuit sur France Culture. Nous parlons de David Simon, écrivain et créateur, notamment de la série The Wire, dans une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Kaczmarek et U2 Diego Hack Lopez. Né en 1960 dans une famille juive de la classe moyenne supérieure américaine, David Simon a commencé sa carrière en tant que journaliste au Baltimore Sun, où il a passé un an à suivre les policiers de la ville, expérience dont il a tiré son premier livre, traduit en français sous le titre « Baltimore, une année au cœur du crime ». Progressivement, il est passé du livre à la série télévisée et on lui doit plusieurs des créations les plus marquantes des dernières années avec Tree Me, Show Me a Hero, The Corner, Deuce et bien sûr The Wire. Nous en avons parlé lundi avec Eric Vera et Mathieu Podbonneville dans une émission à retrouver en podcast. Hier, avec Ariane Hudley, nous nous sommes justement arrêtés longuement sur The Wire, le navire amiral des créations de David Simon. Nous l'avons fait à partir de son livre The Wire, les règles du jeu, sorti en 2016 aux presses universitaires de France. Enfin demain, avec François Jost et Séverine Barthes, nous ferons un pas de côté par rapport à l'ensemble de la semaine pour parler plus généralement de ce dont les séries télé sont le symptôme, ainsi que de l'importance de leur générique. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour évoquer la question queer dans The Wire, je serai en seconde partie de cette émission avec la chercheuse Anne Crémieux, maître de conférence à l'université de Nanterre. Nanterre, qui est également l'université de mon invité de cette première partie, Marie-Hélène Baquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeure d'études urbaines. Vous avez co-dirigé en 2014 un ouvrage intitulé The Wire, l'Amérique sur écoute, avec Amélie Flamand et Anne-Marie Paquet-Déris, et également avec Julien Talpin. Il est vrai qu'on n'est pas tellement étonné finalement que quelqu'un s'intéresse comme vous à la ville. Quand on s'intéresse à la ville, on s'intéresse à The Wire, peut-être aussi inversement, vous allez nous le dire. Parce que ce qui apparaît spontanément quand on pense à cette série, c'est que c'est une peinture d'une ville, une peinture d'un phénomène urbain. C'est le cas pour vous ?
Oui, tout à fait. C'est une peinture très très fine de la ville de Baltimore, à partir d'un territoire spécifique, qui est le ghetto noir de Baltimore. Mais la particularité de la série, c'est de montrer comment ce territoire se constitue et vit dans une ville beaucoup plus large, et d'expliquer la situation de ce territoire au regard d'un ensemble de processus économiques et urbains beaucoup plus larges. Par exemple, la fuite des populations blanches, les rapports politiques, le rôle de la justice, le rapport de la désindustrialisation, par exemple, qui est toute une partie de la série qui porte là-dessus, sur la fin du port de Baltimore. Et donc, oui, c'est une véritable analyse de l'Amérique urbaine contemporaine.
On voit très peu le centre, sauf dans quelques épisodes, parce que il y a l'un des grands dealers de Baltimore qui achète des appartements dans le centre-ville. C'est un personnage très étonnant parce qu'il prend des cours d'économie et d'une certaine de toute façon, il a envie de progresser socialement, entre guillemets. Mais sinon, on voit très peu le centre de Baltimore. Donc, il n'y a pas tout Baltimore, quand même.
Non, on voit très peu le centre de Baltimore, mais il y a ses échappées, effectivement, quand Springer Bell, par exemple, va négocier, ou quand un autre membre de son gang va se reconvertir. Mais en même temps, dans une série de scènes, on passe du ghetto, par exemple, à une image de la ville, du centre-ville qui est posée sur un mur. Et il y a toujours cet aller-retour qui fait que, contrairement à beaucoup d'œuvres cinématographiques ou même d'ailleurs de travaux sociologiques, on ne voit pas le ghetto fermé sur lui-même, mais on le comprend dans ses interactions avec le reste de la ville.
Alors c'est très amusant parce que maintenant, quand on parle de Baltimore à à des Français, quasiment systématiquement, on vous répond The Wire, à tel point que la série est devenue une sorte d'emblème, en tout cas pour les Français, hein, de cette ville.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui vont visiter.
On fait du tourisme The Wire maintenant. Tourisme,
oui. Mais qui, du coup, qui ont aussi l'occasion de voir ben, tout la gentrification autour du quartier du port, tout un urbanisme commercial et financier qui a transformé la ville profondément. Parce que Baltimore, c'est aussi ça. Hein, d'où d'ailleurs les réactions de la municipalité de Baltimore, très négatives à la sortie de la série, en disant, mais voilà, vous donnez une image qui n'est que négative de notre ville. Mais ces deux Baltimore-là, finalement, vont ensemble parce que le Baltimore financier contribue aussi à la constitution des ghettos.
Donc c'est une belle ville, vous la connaissez ?
Oui, c'est une ville agréable, bien située au bord de la mer. Oui, c'est une belle ville. Et du point de vue de l'urbanisme, c'est assez intéressant de voir ces quartiers populaires nord-américains qui sont très différents des images qu'on pourrait avoir du ghetto, entre guillemets, du ghetto français, parce qu'il y aurait toute une discussion à avoir pour savoir si on utilise le terme en France ou non, où on a plutôt des images de bars, de grandes tours. Là, on a des petits immeubles bas, en briques. Donc, on a une image quand même urbaine et une forme urbaine qui est très, très différente.
Oui, ce qui est, j'imagine, très intéressant pour vous, puisque vous travaillez sur la forme des villes, parce que ça signifie qu'en gros, ça n'est pas la barre qui crée la criminalité, c'est évidemment autre chose,
puisque
ça le prouve en l'occurrence.
Oui, c'est la concentration des populations les plus précarisées. Et puis aux États-Unis aussi, c'est la disparition quasi totale de la puissance publique. C'est un rôle d'une école qui est financée par les impôts fonciers, donc qui est totalement inégale à l'échelle de la ville. Voilà, c'est l'articulation entre une gestion politique, sociale, et puis bien sûr la forme urbaine a aussi son importance.
Alors c'est aussi logique d'une certaine façon que des sociologues, des géographes s'emparent de cette série, parce que chaque saison s'ordonne non pas vraiment par étapes temporelles, mais bien par secteur géographique. Chaque saison parle d'un secteur de la ville.
Oui, d'un secteur de la ville ou plus précisément d'un thème, d'une modalité de gestion.
Mais qui est souvent incarné dans un lieu, donc vous le disiez, le port,
voilà,
par exemple.
Oui, le port, par exemple, bon, on voit très bien la désindustrialisation de la ville, qui renvoie à une série de travaux d'ailleurs, hein, qui avait montré l'importance de la désindustrialisation sur la création des ghettos noirs américains. On voit aussi toute la question de l'école, avec l'école où s'exprime une violence très, très forte et dans laquelle la puissance publique reste quand même très défaillante. On voit le rôle de la presse également, donc plutôt dans les quartiers centraux. Donc effectivement, on se promène dans Baltimore et en même temps, on voit donc l'articulation finalement de ces processus très complexes qui conduisent à produire le ghetto.
Alors on va continuer ce portrait de la ville de Baltimore avec cette fois David Simon lui-même interrogé par François Angelier.
Baltimore was one of America's major port cities.
Baltimore était l'une des grandes villes portuaires des États-Unis et une grande ville d'acierie, une ville de sidérurgie. La sidérurgie de Baltimore était la plus importante des États-Unis avec des dizaines de milliers de salariés. Et c'était une ville manufacturière incroyable. Baltimore était un nœud ferroviaire, c'était en plein milieu de la côte Est, c'est la plus au nord des villes du Sud et c'est la plus au sud des villes du Nord, c'est ce que l'on dit de Baltimore. Baltimore était une ville faite d'immeubles de briques avec des sous-sols. Oh, il s'était passé beaucoup de choses au fil de l'histoire. Baltimore était une ville fière. Lorsque les Britanniques sont arrivés en 1812, Baltimore est la seule ville qui s'est battue bec et ongle, parce que c'est l'attitude des gens de Baltimore que de se battre bec et ongle contre ceux qui veulent s'emparer d'elle. Et comme la plupart des villes industrielles des États-Unis, Baltimore a vécu l'ère de désindustrialisation sans aucune préparation. Ainsi, tous ces salaires qui sous-tendait la classe moyenne de Baltimore et la classe ouvrière, tous ces salaires ont disparu, tous les emplois se sont volatilisés. Ça a été le cas à bien des endroits aux États-Unis et partout dans le monde. Et Baltimore a dû chercher des solutions dans ce monde post-industriel. Et aujourd'hui, le plus grand employeur de Baltimore, c'est Johns Hopkins, la célèbre université et centre hospitalier universitaire. Johns Hopkins a un des centres universitaires les plus réputés des États-Unis. Et puis le tourisme est en plein essor aussi. Il y a le port, il y a aussi des conférences internationales. Donc ça apporte des sous à Baltimore, mais au-delà du centre-ville, il y a des gros problèmes.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Marie-Hélène Baquet, en tant que chercheuse en études urbaines, diriez-vous que vous avez appris quelque chose en regardant The Wire? Autrement dit, est-ce que vous avez pu le prendre comme un document, et éventuellement un document de travail, bien que ce soit quand même de la fiction?
Non, je le prends comme une fiction, parce que même si c'est une fiction vraisemblable et nourrie d'une série de travaux sociologiques, notamment Simon explique qu'il s'est appuyé beaucoup sur les travaux de William Julius Wilson, en particulier sur son ouvrage qui traite de la désindustrialisation.
On peut redire un petit peu de qui il s'agit?
Oui, il s'agit d'un sociologue nord-américain qui a travaillé notamment sur le ghetto de Chicago et qui a publié plusieurs ouvrages, dont un s'appelle « One Works Disappear », quand le travail disparaît, qui explique les effets de la désindustrialisation dans le ghetto noir. Et ensuite, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Wilson, qui enseigne maintenant à Harvard, a été un des premiers à construire des cours autour de la série, en s'en servant comme document non pas ethnographique, mais comme introduction à ses cours, comme outil de discussion. Et d'ailleurs, il était venu en France à notre colloque. Donc non, The Wire reste une fiction qui permet de rentrer, ce que permet sans doute moins la sociologie, dans l'expérience des Noirs américains qui vivent dans le ghetto, qui permet de saisir la complexité des relations humaines dans le ghetto et avec le reste de la ville. Mais je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser comme un document.
Donc série sociologique, vous diriez ça ?
Série sociologique. Didier Fassin, dans notre ouvrage, disait que les sciences humaines et cette série entretiennent une relation très très forte, qui est une relation de fascination et de légitimation réciproque. Mm-hmm. Et je pense que effectivement on peut reprendre cette idée là. Donc c'est une série qui peut être utilisée et qui est utilisée dans certains cours comme introduction au cours, qui permet de discuter avec les étudiants, mais qui doit bien être analysée comme étant une fiction, parce que la différence entre une fiction et un travail de sciences humaines, c'est que précisément cette fiction donc se veut réaliste, mais en même temps le metteur en scène, le scénariste, reste quand même maître de l'histoire. Il a la possibilité de nous faire naviguer entre différents mondes dans un travail ethnographique ou sociologique. Et bien ce qui compte, c'est les faits, c'est ce qui s'est passé, c'est les données qu'on peut récolter et qu'on peut analyser.
Alors c'est une série, Marie-Hélène Baquet, qui fascine, elle fascine les chercheurs aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, et puis elle fascine beaucoup en France. Et évidemment, il y a toujours une espèce de mise en regard de ce qui se fait en France en matière urbaine, de la question par exemple de savoir si il y a des ghettos en France comme il y en a aux États-Unis. Donc le regard finalement que nous, les Français, portons sur The Wire est un regard emprunt de nos questionnements à nous et de nos problèmes à nous en France.
Tout à fait. C'est ce qui explique d'ailleurs son succès dans les classes intellectuelles, mais pas seulement. Il y a toujours un peu l'idée que les États-Unis, nous explique ce que sera notre monde de demain, ou quelquefois au contraire la l'opposition
de contre-modèle.
Un contre-modèle de monde qui serait très, très différent. Et la The Wire a été vue ainsi par de nombreux intellectuels et responsables politiques. Je pense par exemple au maire de Sevran qui s'est servi de The Wire pour demander la dépénalisation du cannabis.
En disant que sa ville, Sevran, c'était The Wire.
Voilà, en expliquant que sa ville était The Wire.
Vous êtes allé à Sevran, vous avez retrouvé Baltimore.
Je suis allé à Sevran plusieurs fois. Et je suis allé visiter, d'ailleurs, je suis allé voir des fours à Sevran. Mais effectivement, on est quand même, à mon avis, loin du ghetto de Baltimore, même si la situation de Sevran est à bien des égards alarmante.
Donc, le regard américain sur cette série vous semble-t-il très différent du regard français sur cette même série ?
Oui, parce que en France, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui reste exotique, c'est-à-dire qui est à nos portes, mais qui n'est pas qui n'est pas chez nous, éventuellement qui nous menace, mais qui n'est pas notre réalité. Donc là, le regard français est différent, y compris d'ailleurs le regard des jeunes français des quartiers populaires, puisque avec Lamance Mazou, on a fait un travail au quartier des mineurs à Nanterre, où on a rencontré des jeunes des quartiers populaires, et on leur a montré des extraits, et on a été étonnés d'ailleurs parce que beaucoup connaissaient déjà la série, notamment par le rap, et leur regard était également un regard de distance, hein. Il y en a par exemple à un moment donné qui nous dit, mais il y a trop de noirs en Amérique, chez nous c'est pas comme ça, en voyant The Wire, ils sont à la fois désappointés parce que c'est pas l'image de la réussite des noirs qu'ils peuvent avoir quelquefois en tête. Bon, c'est une image que peut donner le rap, par exemple. Hein. Puis il y a cette idée en France que les Noirs réussiraient mieux aux États-Unis. Mm-hmm. Et en même temps, ils voient cette violence qui leur est quand même, qui ne leur est pas familière. Ils voient cette organisation du trafic à grande échelle qui ne leur est pas non plus familière. Donc ils font en même temps une différence par rapport à leur situation.
Donc ils voient la différence et puis en même temps, ça les rassure un petit peu parce que vous expliquez très bien. Parce que vous êtes également allé en prison pour montrer à des prisonniers des extraits de The Wire. Et même en prison, on vous dit, quand même, la France, c'est moins violent.
Oui. En même temps, ça les rassure. Il y en a même un qui nous a dit, mais en France, il y a un système social. Enfin, voilà, avec ces mots. Et donc là, il voit effectivement la différence. En même temps, un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce qu'il remarque, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de noirs. Chez certains jeunes, c'est posé en termes de revendication, parce que c'est vrai que dans le cinéma français, à la télévision française, on voit peu de noirs. Et je pense notamment à une petite vidéo qui a été mise sur YouTube par un jeune qui s'est vu refuser une aide au financement de son film et qui s'appelle Allez vous faire en filmer, où il reprend finalement certaines images de The Wire. En disant, un noir qui lit de la littérature, un noir qui est cultivé, ça ne rentre pas dans vos schémas, et donc, vous n'êtes pas capable de nous reconnaître.
Donc, on l'a dit, public cultivé, quand même, peut-être un public démocrate, plus que républicain aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus.
Oui, un public qui est prêt à passer du temps à regarder ce qui se passe dans les ghettos, et donc à s'y intéresser.
Et aussi, donc, un public qui est un public simplement de jeunes qui aiment le rap, et on le comprend aussi parce que dans un certain nombre de chansons de rap en français, on retrouve, vous allez l'entendre, le nom de personnage de The Wire.
Comme Adidas, je traîne en bande. Tu fais le tour du bloc, je fais le tour de la France. Poula Nicki Minaj dans ton leggings quand tu danses. Tu kennes pas le premier soir, ciao, j'ai pas le temps. Je suis pas à côté de toi, j'ai un tour d'avance. Mon son fait des thunes, ton son fait la manche. Moi j'ai rien vu, j'étais pas là, monsieur l'agent. Appelle-moi Marlo Stanfield, je suis pas une balance. Les menottes sont en fer, mes chaînes en diamant. Vuitton c'est comme le Peura, c'était mieux avant. Ton compte est plein sur Facebook, dans le rouge à la banque. Même si tu veux rapper, viens, je vais t'apprendre.
Monte dans le range, on s'arrange. Tu veux monter au ciel, ma belle, on t'arrange. Tu veux t'exploser le zen, mon frère, on t'arrange. Mais n'appelle pas les keufs ou ces portraits qu'on t'arrange. Monte dans le range.
La compagnie des auteurs sur France Culture, ça c'est le rappeur Kennedy qui fait référence au personnage de Marlo Stanfield, qui est un personnage assez fascinant d'un gangster qui a 22 ans, ou peut-être 23, mais pas beaucoup plus, qui est tout de même assez brutal. Est-ce que c'est un personnage dont on vous a parlé? Est-ce que c'est un personnage qui est connu, par exemple, par les jeunes Français?
Oui, c'est un personnage qui est connu. Ce qui est intéressant, c'est que, en même temps, les jeunes Français ont du mal à se projeter dans un des personnages de The Wire parce qu'ils sont tous complexes et assez ambigus. Celui qui va, sur lequel ils pourraient se projeter le plus, c'est sans doute Omar Little, mais qui est en même temps homosexuel. Donc,
oui, on en parlera dans la seconde partie. C'est un personnage très complexe. Voilà, mais on vous a parlé de lui en tous les cas.
Voilà, on va parler de lui. On va parler. J'étais étonnée parce que quand je leur ai demandé, il y en a qui m'ont dit celui dont je me sens le plus proche, c'est McNulty, c'est-à-dire un des seuls blancs
irlandais.
Irlandais. Et ben là, mais le problème, c'est qu'il est blanc, et puis c'est quand même pas c'est pas l'itinéraire de la réussite. Mais voilà, et c'est quand même un personnage qui incarne une certaine autorité. On m'a aussi parlé beaucoup de Springer Bell, qui est le second en fait du gang, mais qui est en même temps quelqu'un qui suit des cours d'économie, qui lit Adam Smith. Donc on voit aussi qu'il a une image qui connaît bien l'histoire des Noirs américains, du mouvement des droits civiques. Donc c'est un personnage très très ambigu.
Et les personnages de simples dealers qui traînent en bas des tours dans les canapés orange, est-ce que ça c'est des personnages dont on vous a parlé?
Non, on m'a parlé du canapé, me disant des canapés comme ça, oui, on peut en avoir chez nous. Donc, effectivement, cette image du canapé est très importante. Non, il y a pas, enfin, j'ai pas entendu d'identification avec les dealers, parce que précisément, c'est ce que montre quand même bien The Wire, c'est que ces dealers sont pris dans un système qui les dépasse totalement et qu'ils ont une marge de liberté très très faible. Ils sont pris dans des rapports de pouvoir et de domination dont ils n'arrivent pas à sortir.
Alors, est-ce que c'est un cours de sociologie pour les jeunes gens des banlieues françaises, finalement, qui voient à travers le parcours de ces dealers, comment la société fonctionne?
Je crois, oui, que c'est en tout cas un outil qui les fait beaucoup réfléchir, parce que ça les fait réfléchir d'abord par le décalage vis-à-vis de leur situation, en regardant ce qui se passe ailleurs, et dans un ailleurs qui voit souvent à partir d'un certain nombre d'images très, très idéalisées. Et effectivement, ça leur permet de se poser un ensemble de questions sur le rapport entre le deal et d'autres enjeux économiques, sur la police. Ça renvoie aussi à une série de questions posées en France sur le contrôle au faciès, par exemple. Mmh. Voilà, quand on a certaines scènes de violence, ça renvoie à des thématiques qui existe bien dans notre contexte hexagonal.
Alors d'autres rappeurs qui utilisent la mythologie un petit peu de The Wire, c'est par exemple Booba. Alors Booba, il a dit dans les Inrecuptibles que The Wire c'était sa série préférée. Donc il a les mêmes goûts qu'Obama en fait, Booba, on vient de le découvrir. Et lui, c'est justement le personnage d'Omar Little, donc comme Obama, qu'il va préférer. Donc beaucoup de références comme ça dans la culture rap française à cette série-là.
Oui, on trouve beaucoup de références. Mais il faut noter en même temps que ces références, elles tendent à simplifier, à schématiser la série. Et c'est assez normal, mais et du coup à en effacer la complexité. Mais c'est une série qui a connu un vrai succès chez les jeunes des classes populaires.
Alors on a commencé à parler avec vous, Marie-Hélène Baquet, de La Question Noire. Je vous propose d'écouter une archive de David Simon lui-même sur cette question.
I grew up south of Baltimore in the D.C. suburbs,
but in a very liberal suburb. De Washington,
in one of the more liberal states in America, Maryland.
Dans l'état du Maryland.
And the first time I heard a racial epithet.
Première fois que j'ai entendu une insulte raciale, c'est lorsque je suis devenu journaliste à Baltimore. Et puis ça, j'ai commencé à être raciste. J'ai commencé à l'entendre tous les jours. Et puis donc, alors que j'avais déménagé pour aller vers le nord, en réalité, j'avais déménagé pour aller vers le sud du point de vue mental. Et la majorité était noire, la majorité de la population. Et le pouvoir était entre les mains
a liberal white
d'un homme blanc,
Mayor William Donald Schaefer, who's about to become the governor,
to the first black governor, pour passer entre les mains d'un homme noir. Donc, il y avait ce leadership politique qui était en pleine émergence. Donc, c'était pas une ville du sud, comme on pourrait penser au sud des États-Unis, mais il y avait des vestiges, néanmoins, de l'idéologie du sud et des comportements du sud des États-Unis qui restaient à Baltimore. Au cours de son histoire,
Abraham Lincoln had to lock up the legislature. He had to arrest the governing body of Maryland in order to stop it from going with the South.
Empêcher les pouvoirs du Maryland d'aller vers le Sud. Et Baltimore, c'était évidemment l'un des cœurs de la fièvre sécessionniste des États-Unis. Donc, c'est une ville qui était un carrefour. Et ce que vous dites est juste. C'est à la fois, comme on l'a dit, une ville du Nord et du Sud, mais ni une ville du Nord, ni une ville du Sud en même temps.
Oh my God, me and my mother got a student suicide team. Oh my God, me and my mother got a student genocide team. Oh my God, me and my mother got a student suicide team. Oh my God, oh my God. Slam, bam. I come on scene, but like gasoline.
David Simon au micro de Benoît Lagan. Alors, Marie-Hélène Baquet, c'est vrai que d'habitude, les séries américaines, c'est soit New York, soit Los Angeles, soit Miami, c'est en train de changer un petit peu. Mais là, tout d'un coup, on a cette ville qu'on ne connaissait pas, qui arrive dans nos imaginaires. Et David Simon nous explique que c'est une ville qui est à la fois du Nord et du Sud. Le Sud, évidemment, entendu comme la partie anciennement esclavagiste, et on l'imagine toujours un peu plus raciste des États-Unis par rapport au Nord. Est-ce que c'est éclairant pour vous, cette analyse-là, en tant que chercheuse sur les questions urbaines ?
Oui, je pense que, mais je pense qu'on peut dire ça d'autres villes de la côte Est, parce que ce sont des villes qui ont vécu la grande migration des Noirs, notamment dans les années 30, et donc avec des quartiers où les populations africaines-américaines se sont installées, dans une ville comme Boston, qui est une ville très très WASP, qui était
très honneur pour le coup.
Voilà, très très blanche. Eh bien, on a aussi des quartiers ghettoisés qui étaient qui ont été longtemps des quartiers noirs, qui sont maintenant beaucoup des quartiers latino-américains, voilà, plus mélangés. Mais oui, je crois qu'on a ces deux Amériques qui se rencontrent là.
Et donc, pour revenir sur la question raciale, vous citez dans votre livre collectif Frédéric Jameson, qui a qualifié la série The Wire de post-raciale. C'est-à-dire quoi, post-raciale, dans ce cas-là ?
Post-raciale, parce que les personnages, la grande majorité des personnages de la série sont noirs. Donc, on a une série où les rapports raciaux, du coup, ne se posent plus, même s'ils sont en arrière-plan en permanence. Et donc, du coup, d'où il peut sortir aussi une utopie d'une ville où il n'y aurait plus de rapports raciaux. En tout cas, ce que ça fait émerger, c'est aussi le poids des rapports de classe, dans leur articulation avec la dimension raciale.
Parce que finalement, la question du racisme n'est pas traitée en tant que telle par The Wire.
Non, elle n'est pas, effectivement, elle n'est pas
jamais au centre, finalement, des problématiques.
Effectivement, elle n'est pas au centre, mais elle apparaît quand même dans certaines interrelations, par exemple des interrelations de la police avec des jeunes, où on a quand même des membres de la police qui, pour partie, sont blancs, et donc elle apparaît. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à un moment donné, on voit un politicien, je crois qu'il est sénateur, il est noir, et on voit qu'il est tout aussi corrompu que d'autres. Donc ce que montre aussi d'ailleurs cette série, c'est que le fait d'avoir des élites noires ne règle pas la question raciale. Et après la période Obama, c'est quelque chose qui peut tout à fait être confirmé.
Et puis il y a quand même, à la saison 3, qui est donc la saison politique, l'avènement finalement du maire blanc,
ouais.
Ce qui est une nouveauté extraordinaire dans cette ville majoritairement noire. Et là, il y a comme une espèce d'inversion des choses, parce que quand il se présente, personne ne pense qu'en tant que blanc, il puisse gagner.
Oui. Et un maire blanc qui va très vite revenir sur ses promesses, notamment sur ses promesses dans le champ scolaire. Ouais.
Alors aujourd'hui, évidemment, Marie-Hélène Baquet, rien n'a changé à Baltimore, malheureusement. Vous avez écrit, je crois, une tribune en 2015 pour dénoncer la mort d'un jeune noir, Freddie Gray, qui a été victime de violences policières dans des conditions que vous pouvez peut-être raconter.
Il a été victime, je me rappelle pas exactement.
On l'a mis dans un camion. Alors c'est une pratique des policiers qui mettent des personnes dans un camion sans les attacher.
Ouais.
Ce qui fait que, comme il roule très vite et de manière volontairement brutale, ça crée finalement des commotions et qui peuvent entraîner la mort, comme ça a été le cas pour ce jeune garçon, Freddie Gray, dont il s'avérait qu'en réalité, il n'avait commis aucun crime.
Oui.
Donc, ça semble quand même indiquer qu'à Baltimore, la situation va plutôt de mal en pis.
La mort de Freddie Gray est arrivée après la mort de plusieurs hommes noirs, après qui avait été notamment suivi des émeutes de Ferguson. Et donc, quand on a écrit cette tribune avec Julien Talpin et Amélie Flamand, c'était pour revenir, parce que donc il y a eu aussi des émeutes à Baltimore, et d'ailleurs Simon avait pris une position à ce moment-là qui était une position un peu en retrait, dénonçant les émeutiers. Et ce que nous défendions, c'est que finalement ces émeutes, c'était la dernière saison de The Wire, c'est-à-dire un retour de la réalité où émergeaient donc à la fois les habitants du ghetto comme acteurs finalement dans la ville, pas seulement dans le ghetto mais dans la ville, puisqu'ils sont allés manifester dans la ville. Et on a vu aussi au moment de ces émeutes que arrivait à se créer une coalition d'organisations communautaires qui a ensuite d'ailleurs donné lieu au mouvement Black Lives Matter, qui a pris la parole, qui s'est structuré. Et ces organisations communautaires sont totalement absentes de The Wire, de la série. Ça a d'ailleurs été une des critiques faites par certains sociologues, dont Peter Dreyer. Donc finalement, c'est une partie de la réalité qui revenait sur la scène, et cette réalité-là n'était pas présente dans la série.
Et pour terminer, pourquoi, que reprochait-il finalement David Simon à ses émeutiers?
Il leur reprochait leur violence en disant qu'elle était inutile qu'elle était contre-productive, ce qu'on peut sans doute suivre. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que cette violence, comme il le montre dans The Wire, n'est que le résultat d'une situation d'inégalité et de violence que vivent eux-mêmes les habitants du ghetto.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Baquet. Je rappelle que vous avez donc co-dirigé un ouvrage collectif intitulé The Wire, l'Amérique sur écoute. C'est aux éditions de La Découverte. Vous publiez aussi ces jours-ci un livre intitulé « Banlieue populaire, réflexion sur le 9-3 » que vous avez dirigé avec Emmanuel Bélanger et Henri Ray. C'est aux éditions de l'Aube. Alors vous restez avec nous dans quelques minutes. On va continuer de parler de The Wire, mais cette fois avec l'angle queer. Ce sera avec Anne Crémieux. Je vous propose d'entendre un nouvel extrait de Baltimore, qui est donc ce livre de David Simon qui a été adapté pour France Culture par Michel Pomared, extrait lu par Simon Goubert, et vous allez l'entendre, c'est chaud.
C'est l'été, la vie est belle, dit Gershwin. Mais il n'a jamais été forcé d'enquêter sur des meurtres à Baltimore, où l'été est si étouffant, si torride, si bouillant que la ville en éclate comme le trottoir du diable. De Milton à Poplar Grove, la chaleur s'élève, visible à l'œil nu, par vagues grésillantes au-dessus de l'asphalte. Et avant midi, on se brûle les doigts sur les briques et les formstones. Pas de chaises longues, pas d'arrosage, pas de piña colada dans un mixeur Waring 10 vitesses. L'été en ville, c'est la sueur, la puanteur, et des ventilos à 29$ qui crachent un air fétide par la fenêtre du premier étage de la moitié des pavillons de la cité. Avec ça, Baltimore est un vrai marécage, bâti sur un bras mort de la baie de Chesapeake par des réfugiés catholiques dévots, qui aurait dû réfléchir un peu mieux à la question quand le premier moustique de la rivière Patapsco a commencé à mastiquer un bout de peau européenne palichonne. L'été à Baltimore est à lui tout seul un argument sans appel, une masse critique. La saison est une interminable parade des rues, avec la moitié de la ville qui s'évente sur les perrons de marbre et de pierre, attendant une brise du port qui ne semble jamais parvenir à traverser la cité. L'été, c'est un service de 16h à minuit à base de coups de matraque et de descente des fourgons du Western, avec 300 durs à cuire qui se toisent entre eux et fusillent du regard toutes les voitures de patrouille qui passent. L'été, c'est 90 minutes à jouer les renforts aux urgences d'Hopkins, un cœur bestial d'insultes et de supplications des occupants des cellules de tous les commissariats de la ville, la promesse quotidienne d'un nouveau bain de sang nocturne sur le lino dégueulasse d'un quelconque fast-food de Federal Street. L'été, c'est un massacre au couteau dans un bar de Druid Hill, une fusillade de 10 minutes dans les terrasses, une scène de ménage qui dure la journée entière jusqu'à ce que mari et femme se tournent tous deux contre les flics. L'été, c'est la saison du meurtre sans mobile, des couteaux aztèques à la lame brisée et des démonte-pneus tordus. C'est l'époque de la vie dangereuse, la vraie, la saison des représailles massives et immédiates, le milieu naturel de la bataille décisive. Température ambiante, 35 degrés Celsius. Par-dessus le marché, il y a les suicides, les overdoses et les morts non expliquées, le menu fretin des tâches quotidiennes qui deviennent tout à coup insupportables lorsque les cadavres pourrissent par 35 degrés Celsius. N'essayez même pas de montrer les statistiques et les graphiques à un inspecteur de la criminelle. Il les repoussera avec dédain. L'été est une guerre.
Deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à l'écrivain et créateur de séries télévisées David Simon. Nous sommes à présent avec Anne Crémieux, maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre, auteur notamment de l'essai « Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien » aux éditions de L'Harmattan en 2004. Également co-directrice de l'ouvrage « Histoire des images en Amérique du Nord » chez Azan en 2013 et réalisatrice de courts-métrages et de documentaires. Bonjour Anne Crémieux.
Bonjour.
Que vous inspire l'extrait que nous venons d'entendre de cette chaleur de l'été de Baltimore?
Déjà, ça me rappelle des souvenirs.
Ah, et puis, c'est vous vrai avez vécu aux vraiment... États-Unis. Un peu plus haut, hein, vous étiez à Philadelphie.
Oui, et à Washington. Donc, c'est vrai qu'il fait très chaud l'été. Et très froid l'hiver.
Ça sent pas si mauvais que décrit dans cet extrait.
Et mais alors, justement, ce qui est amusant, voilà, ce qui est intéressant quand on écoute un extrait comme ça et que j'imagine, et ce qu'entendent aussi les Baltimoriens, si, je sais pas si on dit en français, qui voient leur ville décrite ainsi, c'est que Baltimore, c'est pas que ça. Et aussi qui décrit très bien. Et donc, de même, sa série, quand on demande est-ce que c'est documentaire ou fiction, là, on voit bien, c'est de la fiction. Et c'est de la fiction dans la façon dont c'est filmé. David Simon dit toujours, oh, moi, je filme comme ça, etc. Mais bon, j'imagine qu'il y a toute une équipe autour de lui qui a le temps et l'argent pour vraiment filmer de manière, en marquant l'esthétique.
Je crois qu'il y a une posture dans ses discours.
C'est pas pour lui reprocher du tout, mais c'est pour dire à quel point on le voit bien quand il écrit déjà. Qu'il y a un goût pour la belle écriture et que donc ensuite il n'y a pas une recherche d'objectivité, mais c'est quand on lui reproche ça après quand il fait The Wire, en fait c'est déjà dans son travail sociologique, c'est un journaliste mais qui est presque déjà un romancier. Et moi je me souviens avoir lu ses livres, j'étais frappée à quel point c'était bien écrit, ça se lit. Enfin, je les ai lus dans des cours d'urbanisme. Bon, c'était plus facile à lire que d'autres.
Hein. C'est quoi votre rapport personnel avec les différentes séries? On va pas toutes les passer en revue, mais de David Simon, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante pour vous?
Ah The Wire, oui. C'est la seule que j'ai vue quasiment en entier. Et paraît-il que c'est la meilleure. Bon, moi, j'ai voulu... Après, les séries, on n'a pas le temps de toutes les regarder. J'aimerais beaucoup voir Trémé. Ça a l'air excellent. Après aussi, David Simon, en plus, il a un rythme qui fait que c'est quand même assez lent. Il faut vraiment rentrer dans la série. Donc, soit on est fan et on regarde tout, soit on a tendance à pas connaître.
En fait, il y a en général ces deux ou trois premiers épisodes qui, pour chaque saison, constituent un peu une barrière. Et c'est tout à fait le cas dans The Wire, c'est-à-dire qu'il faut quand même investir un petit peu d'attention au départ pour pouvoir réellement apprécier la série dans son ensemble.
Mais les premiers épisodes, je trouve, sont excellents et je pense que beaucoup de gens se font happer par cette série quand même.
Alors, on a parlé de la minorité noire, qui n'est pas une minorité dans The Wire. Si vous souhaitez d'ailleurs rajouter quelque chose sur ce qui a été dit en première partie, je vous y invite. Mais on est là aussi pour parler d'une autre minorité qui est la minorité gay dans cette série. Est-ce que gay, c'est le terme qui convient ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser le terme queer ? Et finalement, qu'est-ce qui vous semble le plus fin finalement entre ces deux dénominations ?
Ben, là, dans The Wire, il y a deux personnages principaux qui sont Omar et Kima, gays et lesbiennes.
Un peu des deux côtés, puisque Kima est policière et Omar est un gangster, une sorte de gangster.
Voilà, il y a un parallélisme, puisque toute la série est construite en chiasme, donc il y a un parallélisme entre les deux. Ensuite, il y a aussi des personnages gays et lesbiens parmi les gangsters et parmi les policiers aussi. Je pense que il faut, enfin, vraiment, c'est la série où le terme queer est plus approprié, justement parce que la série n'est pas intéressée par les catégories gay, lesbienne, bi, trans, etc. Jamais c'est nommé. On n'a pas de, il n'y a pas de scène de coming out, il n'y a pas les poncifs, et c'est totalement intégré. Comme si c'était, comme si ça posait pas de problème, même si ça pose des problèmes, mais ça pose pas de problème. Donc à partir de là, oui, les termes plus qui comprennent vraiment tout et qui sont moins spécifiques sont plus adaptés à cette série.
Donc queer, c'est une sorte d'étrangeté dans la sexualité, ce serait ça ?
À l'origine, oui, mais ensuite le terme a été, comme on dit, réhabilité, récupéré. Et donc, non, queer, par rapport à gay, lesbien, les connotations, c'est plutôt la fierté et puis la non-justification de ce qu'on est. Je dirais que c'est pour ça que je dirais qu'il vaut mieux utiliser queer pour parler de cette série. Après, oui, queer, c'est aussi que ça inclut tout le monde, y compris les hétéros, toute sexualité non-normative et toute identité de genre non-normative peut se revendiquer queer.
Et en même temps, il n'y a pas de personnages efféminés, par exemple. On va voir qu'il y a des personnages homosexuels, mais être efféminé, ça paraît la barrière difficile à franchir. Alors, peut-être parce que ça correspond à une réalité dans ces quartiers-là, mais peut-être aussi parce que David Simon l'a voulu ainsi. Quel est votre sentiment ?
Alors, si ça correspond à une réalité, c'est vraiment difficile à dire. Bien sûr qu'il y a des hommes efféminés dans ces quartiers. Est-ce qu'ils y restent ?
Peut-être que c'est difficile, voilà, quand même.
Est-ce qu'ils deviennent gangsters ? Je ne sais pas. Est-ce que le personnage d'Omar est réaliste ? Je ne sais pas non plus. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est basé sur un personnage réel.
Oui.
Donc moi, qui n'ai jamais été convaincue par l'homosexualité d'Omar quand je regardais
la série.
Ah, vous
croyez qu'il n'est pas homosexuel en réalité, Omar ?
Non, je ne dis pas qu'il n'est pas. Bien sûr qu'il est dit homosexuel, il est homosexuel dans la série, mais je ne me suis jamais dit, en regardant la série, que pour moi, je regardais une construction. Vraiment, jamais je me suis dit, ah, il a eu ce petit geste ou je ne sais quoi. Et or, il est basé sur un personnage réel. Et ça, je le savais. Et puis un jour, je me suis dit, mais quand même, qui c'est ce personnage réel sur qui est basé Omar ? Et Wikipédia vous dira que ce personnage réel est hétérosexuel. Et ce qui est réel dans le personnage d'Omar, c'est que c'était un gangster qui volait les autres gangsters.
Donc c'est plutôt ce côté-là qui a été repris et qui a été augmenté, si l'on peut dire, par David Simon. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait dans lequel on entend, plus qu'on ne voit, Omar et son partenaire Dante qui s'embrassent.
Look, Dante, what's gonna take for you to be convinced, man? I don't bag no babies. Huh? What you think?
Donc là, on est dans la saison 2, donc on est en 2003. Peut-être qu'il faut avoir ça aussi en tête quand on voit deux gangsters qui s'embrassent dans une série grand public ou pas, on peut se poser la question, mais enfin tout de même, il y a là quelque chose pour vous qui était choquant à l'époque, qui était encore une fois peut-être un geste politique. Comment voyez-vous les choses ?
Effectivement, quand on se remet dans l'époque, il faut aussi se dire que c'est le début des séries télé dites de qualité, c'est l'apogée, ou je ne sais pas d'ailleurs exactement où ils en sont, mais de HBO. C'est la télé qui n'est pas de la télé, où on peut voir des choses qui étaient interdites. Donc il y a aussi ce côté provocateur. Faire les choses en premier, être les premiers à faire ci, à faire ça. D'ailleurs, tout à l'heure, donc il y a cet aspect-là où c'est vraiment, c'est quand même provocateur et c'est original. Mm-hmm. Et c'est aussi créer un personnage comme on n'en a jamais vu. Et ça remet aussi, de même qu'on ne parle jamais de racisme, mais en fait c'est tout le temps là. Mm-hmm. D'ailleurs on n'en parle pas tout à fait jamais, par exemple quand Kima manque de se faire, enfin, et quand elle part en couverture et ça tourne mal. Le personnage lesbien noir, ça tourne mal. Et là McNulty a une phrase et dit, ah c'est dégueulasse, c'est toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que quand il faut partir en couverture, c'est les noirs qui y vont. Mm-hmm. C'est pas du racisme, c'est parce que il faut infiltrer un monde noir. Mm-hmm. Donc le racisme est toujours là derrière, c'est quand même plus dur quand on est noir, etc. De même, l'homophobie, elle est forcément là aussi.
Par exemple, dans la série, est-ce que le personnage de Omar est mal considéré à cause de son homosexualité par les autres personnages ?
Alors, il y a souvent des piques, il y a souvent des petites blagues, mais il est respecté parce qu'il est plus fort, il est plus dur que tout le monde. Mais ça met aussi en exergue toute l'homophobie latente qu'il y a constamment dans ces milieux, les blagues entre flics, etc. Et tout d'un coup, parce qu'il y a des personnages homosexuels, on les entend différemment. Donc finalement aussi, injecter des personnages homosexuels dans la série, pour moi, ce que ça faisait de vraiment original et d'intéressant, c'est que ça soulignait l'homosociabilité à la fois des gangsters, des flics, etc.
Oui, parce qu'en fait, il y a très peu de femmes. C'est ça qu'il faut dire aussi. Il y a quelques femmes lesbiennes, mais il y a assez peu de femmes en général.
Que des personnages très secondaires.
C'est des personnages secondaires. Les personnages principaux ont une originalité queer, justement, quand elles sont des femmes.
Exactement. Ouais. Et que ce soit les deux lesbiennes en couple qui s'associent à Omar qui sont des gangsters, ou que ce soit un personnage moi que je trouve très intéressant, c'est Snoop qui travaille pour Marlo et qui est une tueuse. Mm-hmm. On sait presque rien d'elle. Elle fait très peur. Elle tue je ne sais combien de gens dans la série.
Et on ne sait pas très bien que c'est une femme. D'ailleurs, on peut imaginer que c'est un garçon, parce qu'il y a un côté androgyne qui est tellement prononcé que on peut presque la confondre avec un garçon.
Donc, c'est un personnage transgenre, on va dire. C'est un personnage transgenre qui, pareil, et c'est ça qui est ça recoupe la représentation d'Omar en tant qu'homosexuel, c'est que jamais ce personnage ne va se définir comme trans. Jamais il ou elle va répondre à quelqu'un. Tu m'as appelé en féminin, je préfère qu'on m'appelle au masculin, qu'on me parle au masculin. Jamais. Mais quand même, les gangsters, et en particulier ses supérieurs, parlent d'elle au féminin, dans mon souvenir.
Donc la féminité, finalement, elle est très peu présente. Y a la masculinité des policiers qui surjouent le côté viril. Même chose du côté des dealers, une espèce de masculinité très forte. Les personnages homosexuels comme Omar sont finalement obligés aussi de surjouer un côté cow-boy et un côté extrêmement masculin. Donc c'est une série vraiment où les femmes ont disparu.
Ben, c'est le point aveugle de la série. David Simon, on lui a reproché, il a admis qu'il n'en parlait pas en fait. Et je pense même dans toute sa carrière, il a toujours étudié la masculinité. Dans les quartiers pauvres, c'est un biais d'énormément de gens qui travaillent sur ces questions. Some philosophies do believe in me.
la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours de The Wire avec vous, Anne Crémieux. La question des institutions, pour vous, telle qu'elle est représentée dans The Wire, est-ce qu'elle est intéressante, y compris dans le rapport aux minorités, ou est-ce que c'est encore autre chose ?
On a la même démarche à ne pas se définir, à ne pas rentrer dans les débats individuel, mon coming out, mon rapport à ma famille, etc., qu'il y a dans la série de manière plus globale. David Simon, ce qui l'intéresse, c'est les institutions, comment fonctionne la société, et surtout, je pense qu'il veut casser un mythe américain qui est que l'individu vertueux peut aller contre le système et gagner. Et du coup, personne ne gagne dans sa série, parce que les institutions sont plus fortes. Mmh. Et c'est ce qui est sous-entendu, c'est que si on veut changer quelque chose, il faut s'attaquer aux institutions et pas dire vous allez vous en sortir tout seul parce qu'on est optimiste ou des choses comme ça.
Est-ce que vous avez l'impression que le côté très choral de The Wire est une façon justement d'expliquer, de dire que l'individu n'est pas au centre pour David Simon? Parce que quand on voit les séries qui sortent ces derniers mois, ces dernières années, on se rend compte que de plus en plus, on est dans la subjectivité avec des séries comme Girls, par exemple, où on a l'impression que chaque personnage se raconte et qu'il se regarde également beaucoup. C'est tout à fait le contraire pour The Wire, où en effet, les personnages ne se regardent pas à proprement parler. Est-ce que, d'une certaine façon, on est passé à un autre âge dans l'écriture des séries, et The Wire serait, de ce point de vue-là, déjà, alors pas démodé, mais d'une génération précédente?
Ben, je pense que The Wire, en fait, est assez exceptionnel. C'est pas la seule série, c'est pas la seule production culturelle qui fait ce genre de choses, mais on est quand même dans une culture du héros, dans une culture de l'individu, et on dit toujours ma génération, c'est Friends, quel est ton Friends préféré? Mmh. Et là, dans The Wire, les gens n'ont pas tant que ça des personnages préférés. Parce que, à part Omar, et je pense que qu'il soit aussi original et bizarre quelque part, joue énormément dans l'intérêt que les gens lui portent. Mais les gens n'ont souvent pas de personnage. Moi, j'ai pas de personnage préféré dans The Wire. C'est vraiment une série exceptionnelle parce que elle parle des institutions, de l'école, etc. Un peu comme un documentaire de Frédéric Wiseman. Mmh.
Ce qui plaît peut-être chez Omar, c'est que il a trois amants au cours de la série, que le premier est blanc, que le deuxième est latino et que le troisième est noir. Et là aussi, c'est vraiment l'image d'un gangster, mais qui n'attaque d'ailleurs que ce qu'il considère comme étant les mauvais, c'est-à-dire les autres gangsters. Il n'attaquera jamais un civil, entre guillemets. Et il a cette espèce d'ouverture sur toutes les communautés. C'est peut-être ça aussi qui joue dans la passion qu'il y a autour de ce personnage et qui va jusqu'à Barack Obama, Anne Crémieux.
Et en plus, je pense, le fait qu'il soit fidèle et amoureux, ça joue énormément, parce que finalement, tous les hétéros, les femmes n'ont aucune importance pour eux. Mmh. Et finalement, le seul où la vie sentimentale compte vraiment, c'est lui. Mmh.
Donc c'est un changement d'image aussi du cliché sur l'homosexualité par nature volage.
Fait, puisque McNulty, lui, collectionne les femmes et rate sa vie sentimentale à cause de ça. Et alors que c'est le stéréotype, c'est que ce sont les homosexuels qui couchent avec tout le monde. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Anne Crémieux. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste du cinéma américain et aussi des cultural studies. Vous avez notamment fait paraître un livre sur les cinéastes noirs et le rêve hollywoodien. C'était en 2004 aux éditions de l'Harmattan. Demain, nous adopterons une perspective plus large sur les séries télévisées dans leur ensemble, en nous interrogeant sur la façon dont elles ont transformé notre rapport au récit et à la fiction. On continuera évidemment de parler de The Wire et des autres séries de David Simon. Mes invités seront François Jost et Séverine Barthes. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le retour de la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Le mouvement féministe tel qu'il est aujourd'hui est imparfait. Femme, si vous voulez vous accomplir, parce que vous êtes au bord d'un soulèvement psychologique dévastateur, toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées. Les mensonges des siècles sont à rejeter. Êtes-vous prête à cet effort ? Ce texte se trouve dans le manifeste féministe et les écrits modernistes de Mina Loy, traduit aussi par Olivier Appert pour les éditions Nous. Nous feuilletons les poésies complètes. Il n'est ni vie, ni mort. Ô Dieu, est-il possible que les hommes et les femmes déterminés à se vaincre l'un l'autre s'enferment dans des boîtes infernales et engendrent des esprits de proie sans cesse aux aguets de leur intimité cruelle? Ça, c'est un poème qui s'appelle « Boîte du mariage ». Tiens, ça fait penser à Marcel Duchamp. Et d'ailleurs, c'est pas si loin de Mina Loy. Saisissant l'occasion de paralyser la personnalité afin d'éprouver la loi du plus habile à survivre, selon cette volonté innée d'emporter la victoire présente dans toute entreprise humaine, jusqu'à ce qu'enfin le vaincu meure transformé. Variante, prenons portrait d'une nonne. Enfin, oui, si on veut. Le sourire plié comme une voilette de mariage. Thésaurisée au ciel. Sur son abdomen, les mains sont croisées, effet d'une conception mystique. La narine cintrée pour l'encens. L'affliction et la raideur de son corps dissimulés, vêtements cercueil. Son visage enveloppé, serviette blanche. Le halo circulaire qui sourd sous peau luisante. Pomme vierge pour l'offrande des anges. Les yeux en ascension. Tournée vers le ciel, telle une couronne, ou maintenant, baissée. La nonne voit bien que personne, à l'exception de Jésus, n'est bon pour nous. Ada donne naissance à Ova, ça c'est un extrait des Anglo-Métis et la rose. Son visage, contracté par la grimace salace, grotesque d'une douleur plus forte que son intellect, il tire de ses reins, une masse coagulée de graisse fourchue qui laisse reposer un moment, tandis que des mains actives l'alimentent de liquide lactoïde, puis sous elles nettoient leurs résidus dorés. Un bébé qui respire, némésis mystérochimique d'attraction obscure. L'incontinente exude dans une involontaire rétention, la conception grossière de l'incalculable. La conscience isolée projetée dans l'arrière de l'espace-temps mesure sa cellule capitonnée. Les Anglo-Métis et la rose, série de poèmes à travers lesquels Mina Loy crée le mythe de sa vie, de son existence. Dans les personnages, elle se donne le rôle de Ova.
Merci Jacques Bonafé, vous interprétez cette semaine des poèmes de Mina Loy.